Voilà, bonjour. De manière intéressante, j'ai en partie l'intention de parler sur Samuel, le prophète, et aussi sur certaines choses qui ont été déjà prononcées ce matin, donc ça encourage évidemment quand il y a une harmonie dans les thèmes. Si vous lisez dans 1 Samuel autour du chapitre 10, je dis autour parce que ça, c'est un peu dans le chapitre 9, un peu dans le chapitre 10 et dans les chapitres qui suivent, vous avez l'histoire de Israël qui demande un roi, donc du premier roi d'Israël. Je sais que Michael a fait une prédication il y a très peu de temps sur Jonathan et Saül, et donc là on va juste mentionner Saül à deux, trois reprises, le bon côté, le côté du démarrage de Saül, le premier roi d'Israël. Il y avait un problème fondamental à la base de sa nomination en tant que roi, et ce n'était pas de sa faute, mais c'était que le peuple a demandé un roi. Parce que le peuple voulait avoir les mêmes droits que les autres nations. Les nations avaient toutes leur roi. Et donc Israël a commencé à réclamer, à dire, nous aussi, on veut un roi. C'est facile à faire le parallèle avec nos vies ou avec nos églises où les gens veulent à tout prix avoir un leader, où ils veulent avoir tel ou tel aspect dans l'Église, des choses qui se font ailleurs, il faut les faire à tout prix dans notre Église. On veut aussi avoir, comme les autres, droit à ceci, à cela. Et quand Samuel le prophète, qui est un homme de Dieu, un homme qui, comme on l'a vu dans le petit récit là, pour les enfants, un homme qui a vécu depuis son enfance dans la maison de l'Éternel, un homme qui avait la crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel. Il était affligé par le fait que le peuple voulait un roi. Et il a pleuré devant Dieu, il a passé du temps devant Dieu, et Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi. Et dans notre convoitise, dans notre désir de pouvoir avoir les mêmes droits que les autres ou être comme les autres, on attriste le cœur de Dieu. Mais vous voyez, la nature de Dieu, c'est qu'il n'a pas sanctionné son peuple. Il a dit, il leur a donné un roi. Vous remarquerez que c'était le seul roi qui n'était pas de la tribu de Juda. Il était benjamite. Et Dieu l'a choisi parce qu'il n'y avait pas d'homme semblable à lui. Il nous est dit. Et il a eu une expérience remarquable. Son témoignage est remarquable. Si on voulait, vous savez, dans certaines églises, il y a les gens, et c'est une très bonne chose. Ici, on attend que ça soit fait au micro, plutôt comme ça, mais c'est une très bonne chose, il y a les gens qui donnent leur témoignage. Et si on avait eu Saül au début, eh bien, on aurait eu un témoignage remarquable. Pourtant, il est devenu un mauvais roi. Pourtant, il est devenu tourmenté. Son témoignage, c'était qu'il cherchait les ânesses de son père. Les ânesses, c'était des égarés, c'est typique, hein. Vous savez, ils sont têtus, et puis ils ont une idée, et ils ont organisé, ces ânesses, pardon, elles ont organisé une évasion, semble-t-il, en groupe. Et Saül a dit à son père, je vais les chercher. Et donc il est allé à la recherche des ânesses de son père. Et j'ai trouvé que ça ressemble un peu à nos vies, n'est-ce pas? Donc c'est le témoignage de Saül pour l'instant, cet épisode-là, parce qu'il va se passer quelque chose. Mais c'est aussi le témoignage de nos vies. On est souvent à la recherche des ânesses de nos pères. On est souvent à la recherche de quelque chose qui a été perdu. On est à la recherche des choses de la terre. Vous savez que la vie passe extrêmement vite. Alors vous dites, c'est un vieux qui parle. Les jeunes trouvent que c'est pas si vite, si rapide que ça. Mais quand on voit le temps qu'on passe à des choses si peu utiles, vous passez, une personne qui meurt maintenant à 90 ans, elle a passé combien d'années de sa vie à manger? Ça se compte en années. Puisque c'est une heure par jour, ça fait un 24e. Vous divisez 90 par 24, on arrive à peu près à 4 ans, autour de 4 ans. Si la personne a dormi 8 heures par jour, elle a passé un tiers de sa vie, 30 ans, à dormir. Si elle a travaillé, ce qui est malheureusement le commun des mortels, eh bien, si elle a travaillé, on va dire, parce qu'il y a des jours de congé, il y a des années où ils ne travaillent pas après la retraite, eh bien, si elle a travaillé, on va dire, 5 heures par jour, vous calculez, ça fait à peu près un cinquième de sa vie passée à travailler, donc encore en années. Maintenant, c'est quand j'étais jeune qu'on entendait les prédicateurs faire ce genre de calcul. Maintenant, le calcul, c'est plus en heure à manger, à dormir, c'est l'heure devant les écrans de téléphone ou d'ordinateur. Et on voit qu'on est à la recherche de quelque chose de futile. En fait, je vais raconter tout de suite la fin de ces ânesses. Elles sont rentrées, elles ont été retrouvées, ou elles sont rentrées toutes seules. Elles en avaient marre, elles ont décidé de rentrer à la maison. Ça veut dire que l'intervention de Saül n'a servi à rien. En fait, il ne les a pas trouvées. Mais en faisant ça, dans sa recherche, il a été rencontré par un homme de Dieu du nom de Samuel. Et Samuel lui a prophétisé qu'il y aurait des grandes choses qui vont s'accomplir dans sa famille, que lui-même serait le principal sujet ou objet de cette bénédiction de Dieu particulière. Et Saül a dit, mais je suis de la plus petite tribu de Benjamin, je suis la plus petite tribu de Benjamin, je suis d'une famille modeste, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Mais Samuel lui a dit, tu vas passer par tel endroit et tu vas rencontrer des gens qui vont à la maison de Dieu, à Bethel, pardon, qui veut dire la maison de Dieu. Et il a donné des détails très précis. Tu vas rencontrer trois hommes. Il y en a un premier qui portera trois chevreaux. Il devait être assez fort parce que un chevreau, c'est déjà pas mal, mais il en portait trois. Un autre qui portera du pain et un autre qui portera du vin vers la maison de Bethel, qui est une ville. Mais le nom de Bethel veut dire la maison de Dieu. Très précisément, tu rencontreras trois hommes. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas un autre groupe de trois hommes qu'il rencontre à cet endroit-là, il a donné les descriptions précises de un qui a mené ce qui pouvait faire l'objet d'un sacrifice pour chacune des trois personnes. Un autre qui a amené du pain, qui nous fait penser bien sûr à Jésus, à son corps qui a été livré. Et un autre qui a amené du vin, qui représente le sang de Christ. Même si on est dans l'Ancien Testament, il n'était pas question de Christ. Il y avait une rencontre particulière. Est-ce que ce matin, vous avez rencontré celui, en tout cas, qui a été le sacrifice? L'ultime sacrifice, mais celui qui a été sacrifié pour vos péchés. celui qui a donné son sang, celui qui a été le pain de vie, qui a dit « Je suis le pain de vie ». Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez rencontré? Samuel lui a dit d'autres choses. Il a dit « Tu vas aller à un autre endroit et tu vas rencontrer des prophètes et tu vas prophétiser. Tu vas rencontrer des prophètes et tu vas devenir un homme nouveau et tu vas prophétiser. » Et c'est ça le témoignage de Saül, c'est que il a rencontré plus tard des gens qui prophétisaient. Et il nous est dit que, enfin, Samuel lui a dit, tu deviendras un homme nouveau. Est-ce que vous êtes devenu une nouvelle création, une nouvelle créature? Est-ce qu'on est, on a fait cette rencontre avec Dieu, pas avec des prophètes seulement, mais avec la parole de Dieu qui est prononcée, avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a été incarné comme il a été lu dans Jean chapitre 1 tout à l'heure. Et c'est ça le témoignage de Saül. Il a été transformé en un homme nouveau. Ensuite, il a été institué, instauré comme roi d'Israël. Il s'est caché, il était timide. Il avait tellement impressionné qu'il s'est caché. Mais il faisait une tête de plus que le peuple de taille. Désolé, Jimmy. Ça veut dire que c'était dur pour lui de se cacher. Et l'Esprit de Dieu a confirmé sa présence en lui. La première intervention qu'il a faite en tant que roi, alors remarquez aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il labourait le champ. Il était roi, mais il labourait le champ. Sans vouloir faire d'allusion, je serais très surpris de voir notre président labourer un champ derrière les bœufs. Mais à l'époque, c'était... Et puis, il ne savait pas trop ce que c'était que d'être roi, probablement. Donc, il a continué ce genre d'activité. Et il apprend qu'il y a un peuple voisin qui est en difficulté. Parce qu'il y a l'ammonite Nachash qui les tient en otage, en quelque sorte, qui exige d'eux à ce qu'ils payent un impôt. Et il a dit, ce Nachash a dit au peuple de Jabès, je vous laisse 7 jours, ils ont demandé 7 jours de réflexion, et il a dit au terme des 7 jours, si vous n'avez pas réussi à vous libérer de mon pouvoir, eh bien je crèverai les yeux à tout le monde, et vous serez mes esclaves. Et ça, ça révoltait le cœur de Saül. Il ne pouvait pas supporter qu'on menace comme ça un peuple qui était faible, qui était innocent. Il ne pouvait pas supporter qu'on crève les yeux. Mais vous savez, l'enseignement que les enfants reçoivent très jeunes, eh bien, a pour but de crever les yeux. Parce que on veut leur empêcher de voir la réalité dans nos pays. Ce n'était pas comme ça avant, mais on veut leur empêcher de voir la réalité. Il y a quelques années, pendant plusieurs années, au début de l'année universitaire, on envoyait un document aux enseignants en disant qu'il leur est interdit d'aborder, de remettre en question les grandes théories. Ce n'était pas mentionné laquelle. Évidemment, tout le monde comprenait qu'elle était interdite. Or, le principe d'une université, c'est justement d'exposer les théories et de les critiquer et de voir les défauts, n'est-ce pas, d'une théorie. Mais là, ici, on voyait qu'il y avait un objectif particulier. On appelle le christianisme, l'enseignement de Christ aux enfants, on appelle ça de l'obscurantisme. Mais ça crève les yeux de ceux qui sont prisonniers de ça. Ça leur empêche de voir qu'il y a autre chose que ces enseignements et que ces interprétations. On est dans un monde qui crève les yeux. Le péché crève les yeux. Les gens ne voient pas normalement lorsqu'ils sont sous l'emprise du péché. Jésus-Christ lui-même a dit aux pharisiens qu'ils étaient aveugles. Les pharisiens ont dit, on n'est pas aveugles. Mais Jésus parlait d'un autre type d'aveuglement. Quand Satan a séduit Ève dans le jardin d'Éden, il lui a dit que Dieu avait interdit cela, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il savait que vos yeux s'ouvriront. Et quand elle a goûté le fruit, il nous a dit, elle et son mari, leurs yeux s'ouvrirent. Mais ce n'est pas les yeux spirituels qui se sont ouverts, ces yeux-là sont devenus aveugles. Et Jésus est venu pour donner la vue aux aveugles, pour que les aveugles puissent voir. Mais il s'agit des aveugles spirituels, principalement. En tout cas, Saül était animé de l'Esprit de Dieu. Et sa réaction, c'était, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut intervenir. L'intervention qui était appropriée à son époque et dans sa position, c'était une réaction de guerre. Évidemment, ici, pour nous, c'est une guerre spirituelle. C'est une prise de position pour nous, spirituellement, de dire je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus être aveugle. Vous savez, quand Ulysse a crevé l'œil du cyclope, c'est pas dans la Bible, ne cherchez pas, c'est la mythologie grecque, eh bien, le cyclope a dit, qui m'a fait ça? Qui m'a fait ça? Et Ulysse a répondu, personne. Et ça me fait penser à qui a créé l'univers? Qui a créé l'univers? Et le cyclope qui répond personne. L'athéisme de l'éducation va répondre personne parce qu'ils ont les yeux aveuglés. Et ça, c'est le témoignage de Saül, un homme qui a libéré un peuple parce que lui-même avait rencontré les prophètes et que dans leur compagnie, il a reçu le Saint-Esprit, qui a fait de lui un homme nouveau. Si vous voulez savoir si vous avez le Saint-Esprit, eh bien vous savez que vous avez le Saint-Esprit quand vous avez été transformé, quand vous êtes un homme, une femme renouvelée, ou nouvelle création, créature, une nouvelle création. Et c'est sur ça qu'on insiste, c'est ça le message de la Bible. C'est que les aveugles puissent retrouver la vue. Et je voudrais qu'on tourne dans Ésaïe chapitre 32. Il y a des passages merveilleux ici où il est décrit de l'intervention du Seigneur concernant les endroits sauvages. Et dans le chapitre 32 d'Ésaïe, il est décrit, alors c'est merveilleux parce que le chapitre commence après par cette phrase, après, alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On voit ici une prophétie de rétablissement de la vue de ceux qui ne voyaient pas, qui n'entendaient pas, qui commencent à voir et qui commencent à entendre. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Écoutez sa voix. Si vous ne voyez pas ou vous n'entendez pas comme d'autres personnes que vous avez côtoyées, qui connaissent Christ et qui peuvent dire qu'ils ont vu Christ, pas avec leurs yeux physiques, mais d'une manière spirituelle, eh bien demandez-le au Seigneur aujourd'hui. Demandez au Seigneur qu'il vous ouvre les yeux, qu'il vous donne cette expérience où le roi Jésus-Christ règne sur vos vies selon la justice et que tout ce qu'on vient de lire là comme promesse soit une réalité dans votre vie. Au verset 15 de ce chapitre d'Ésaïe 32, il est dit qu'il y aurait en quelque sorte une situation sauvage avec des ânes sauvages, les copains des ânes qui étaient au père de Saül, on les reconnaît bien dans les lieux sauvages. Et ça serait ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit dans une vie, c'est qu'il fait des femmes nouvelles et des hommes nouveaux. Le Saint-Esprit transforme. Je me suis trouvé dans une situation où c'est Daniel et moi, on s'est trouvé dans une situation où un couple nous avait appelés à cause de gros problèmes. Et encore une fois, les gens concernés ne sont pas du tout ici. Encore une fois, un problème de couple, comme je vous ai dit souvent, ça n'existe pas. Les problèmes de couple n'existent pas. Mais on dit un problème de couple, comme ça le coupable, c'est le couple. N'est-ce pas? Problème de couple n'existe pas. Et j'attends que quelqu'un d'une autre église nous dise, est-ce que vous avez des problèmes de couple dans l'église? Pas du tout. Aucun. On n'a que des problèmes de personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Les problèmes de couple n'existent pas parce que c'est le problème avec l'homme, c'est le problème avec la femme qui existe. Et donc, je me suis trouvé dans une situation avec Daniel où la femme criait sur son mari. « Moi, je suis rempli du Saint-Esprit, toi, t'es pas rempli du Saint-Esprit. » L'évidence était là qu'elle ne l'était pas. Le mari non plus, mais la femme non plus. Parce que quelqu'un qui parle comme ça ne peut pas être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui réagit comme ça est en train de témoigner qu'elle n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit, quand il se répand sur une personne, il la transforme. Et s'il y avait quelque chose de l'ordre du désert dans sa vie, c'est changé en verger. Un verger porte des fruits. Un verger, ça, c'est tellement beau à voir au printemps, n'est-ce pas? Parce qu'on a eu le froid de l'hiver, on a eu la disparition de la nature d'une certaine façon en hiver. Et là, on voit les vergers, les pommiers en fleurs, etc. Ça donne de l'espoir. Et il y a le fruit qui va venir. C'est la promesse du fruit. Et le fruit, c'est le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22. Est-ce que dans vos vies, il y a ce fruit, ce verger? Et le verger est comme une forêt. C'est pas, vous savez, les vergers, parce qu'il y a deux arbres. On peut parler d'un verger à partir de deux arbres, je suppose. Mais il y a des vergers avec tellement d'arbres que ça fait une forêt. C'est merveilleux, ça. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Mais est-ce qu'on veut marcher dans cette obéissance? Et cette réflexion m'a amené dans Malachie. Le prophète, là encore un petit prophète, il faut en parler avant que Michael n'arrive à Malachi ou Malachie. Alors, en plus, c'est facile à trouver, parce que vous trouvez Matthieu, le Nouveau Testament, et vous allez juste un livre en avant, et vous tombez sur Malachi. Et dans cette question, ce livre de Malachi qui est très très intéressant à lire, vous verrez que le Seigneur a fait une alliance avec Lévi, j'en ai parlé il y a quelque temps, mais qui concerne ses lèvres. Vous savez que Dieu doit toucher les lèvres. Il doit toucher les lèvres du... Il doit toucher la personne entièrement, mais notamment les lèvres. Quand Isaïe a eu la révélation de Dieu dans Isaïe chapitre 6, si je ne me trompe pas, 5 ou 6, il a crié, il s'est prosterné devant Dieu. Il a dit « Malheur à moi, car je suis un homme impur, un homme dont les lèvres sont impurs. Et je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impurs. Et mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins, parce qu'il a eu une vision du ciel, et l'un des séraphins vola vers moi et prit un charbon ardent sous l'autel. Il est venu poser ça, nous dit Esaïe, sur ses lèvres. » Le Seigneur veut nous laver les lèvres. On est vie au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Vous écoutez la radio, vous regardez la télévision, on verra l'impureté. Autour de nous, les faux témoignages, les exagérations. Vous savez qu'une exagération, c'est un faux témoignage. Quand on dit que quelqu'un nous a dit telle chose et on exagère un petit peu sur la manière de dire les choses, eh bien, on est en train de faire un faux témoignage. Un des commandements nous dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Et on voit comment il est pris en vain dans notre société. On vit au milieu d'un monde dont les lèvres sont impures, remplis de mensonges, remplis de paroles de séduction. Mais nous-mêmes, on a besoin que nos lèvres soient purifiées. Est-ce que ce matin, on peut se tenir devant le Seigneur et dire « Seigneur, je voudrais que tu touches mes lèvres, que tu touches ma vie, que tu me changes pour que je puisse connaître ta parole, que ta parole puisse être prononcée. » Et vous verrez que dans Malachi, c'est exactement ça qui se passe, parce que il est question à la fin de la venue du Christ. Et Jean-Baptiste a dit « Je suis la voix qui s'écrit dans le désert, préparez le chemin, préparez Jésus. » Est-ce que vous voulez que vos lèvres soient utilisées par Dieu? On ne sait pas où la vie nous amène. Je pense à nos jeunes hommes et jeunes filles de l'Église. Vous ne savez pas si dans un an, vous ne serez pas appelés sur le terrain du combat. On ne sait pas. Peut-être ça va très bien se finir. Peut-être ça va moins bien se finir. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que vous êtes prêt à dire à vos camarades de combat qu'il faut être prêt à rencontrer Dieu? La vie est sérieuse. Il n'y a pas besoin de guerre pour perdre sa vie. Est-ce que autour de nous, on peut prendre position pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut refuser de rire quand nos proches, nos camarades, nos collègues de travail se moquent de Dieu ou se moque de la morale, est-ce qu'on peut prendre position? Dans le chapitre 3 de Malachie, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Il dit un peu plus haut qu'il a fait une alliance avec Lévi et que cette alliance, c'était par la parole, parce que le sacrificateur doit avoir sous ses lèvres la parole de Dieu, la parole de la sagesse que Dieu lui communique pour qu'il transmette aux autres. Mais dans le livre de Malachie, vous voyez que le peuple refuse. Le peuple offre à Dieu des sacrifices d'animaux qui sont malades, alors qu'ils ont des animaux en bonne santé. Que le peuple est réticent à donner les bonnes choses au Seigneur, et le Seigneur est affecté par ça. Parce que on ne donne pas le meilleur de notre temps pour lui. On ne donne pas nos vies, on veut garder nos vies. On veut garder un contrôle sur nos vies, on ne veut pas donner. Mais les hommes et les femmes de Dieu qui sont utilisés sur la terre sont des hommes et des femmes qui ont tout donné. Qui ont tout donné. Qui ont dit, Seigneur, tu prends tout. Et là encore, à quoi aura servi toute la futilité quand on se trouve face à la mort? À quoi ça sert tout le temps qu'on a passé à chercher les ânesses? Tout le temps qu'on a passé à perdre notre temps? Il faudra rendre compte devant Dieu de tout ça. Au verset 16 du chapitre 3 de Malachie, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif. » Il aime bien écouter ceux qui craignent l'Éternel quand ils parlent entre eux. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voyez, il doit y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et maintenant, il y a ce conformisme, cette tendance à vouloir vivre comme chrétien, mais aussi vivre comme non-chrétien. Et ça ne peut pas. Sur le plan médical, ça s'appelle la schizophrénie. Lorsqu'il y a un schisme, lorsqu'il y a une dissociation, une ambivalence, deux personnes qui vivent en même temps. Le Seigneur veut que ceux qui le craignent puissent être écrits dans son livre, dans ce livre. Est-ce que vous savez que vous êtes écrit dans le livre de vie de l'agneau, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous? Est-ce que vous savez que votre nom est inscrit? Est-ce que vous êtes transformé? Est-ce que vous avez été touché, et ce que Dieu a fait de vous, une femme ou un homme nouveau. J'aimerais terminer en regardant, en mentionnant le verset, chapitre 4 et le verset 2 qui est magnifique. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. La guérison, oui, il nous donnera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Est-ce qu'on connaît ce... Vous savez, la justice ici, c'est le contraire de l'iniquité. Dans la Bible, c'est ça. La définition de ce qui est contraire au péché, c'est justice, la justice. Et est-ce qu'on connaît le soleil de la justice? C'est pas essayer de faire notre propre justice. C'est pas... Dans Ésaïe 64, il est dit... Notre propre justice est comme un vêtement souillé. Vous faites tous les efforts pour être juste, mais c'est comme un vêtement souillé à la fin. Ici, c'est le soleil de la justice. Il suffit d'aller au soleil. Et c'est le soleil qui va faire l'œuvre dans la vie de guérison de l'aveuglement, de guérison de tout ce qui nous empêche de connaître la grâce de Dieu. Sa guérison est sous ses ailes et il va nous faire sauter comme les veaux d'une étable. Innocent, joyeux, libéré. Je me rappelle quand je voyageais à vélo dans la nature en Angleterre. Très très belle région où il y a plein de moutons qui naissaient au mois d'avril, c'était au mois d'avril dans le nord de l'Angleterre, et les petits moutons venaient, quand je passais en vélo, ils venaient me voir et ils sautaient d'un coup. L'innocence, la liberté, la pureté de ces... Il n'y avait pas de culpabilité. La maman mouton venait tout de suite pour leur infliger la culpabilité en leur disant que c'est dangereux et leur dire de s'éloigner. Mais il y avait cette innocence. Est-ce que vous êtes comme un enfant libéré, innocent, parce que Dieu vous a pardonné, parce que le soleil de la justice vous a éclairé, vous a chauffé, vous a fait du bien? Et voilà comment la vie de Saül aurait pu être s'il avait continué dans cette fidélité à Dieu. Mais il s'est égaré, il a désobéi, il a essayé de se justifier, il a essayé de se glorifier, et malheureusement il a été perdu. Donc le Seigneur nous aide chacun, qui nous bénisse. Et c'est un message plein d'espoir, c'est pas un message de condamnation, c'est un message plein d'espoir, parce que le soleil de la justice brille encore. Et si vous voulez ce matin venir à ce soleil de la justice, vous pouvez connaître ça. Mais il faut vous exposer au soleil. Pourquoi on est si blanc dans le nord? C'est parce que le soleil est couvert. Il est là, mais il est couvert. Mais le Seigneur peut chasser les nuages et faire en sorte qu'on soit exposé à ce soleil, si on le désire. Alors, on va prier, et pendant que l'on prie, j'aimerais que, si quelqu'un veut manifester qu'il veut se donner au Seigneur, et seulement si c'est le cas, vous leviez sur place pendant que je prie. Ça veut dire juste une déclaration. C'est l'équivalent d'une déclaration sans parole, en disant: voilà Seigneur, ce matin je veux être sous le soleil de ta justice. Je veux connaître quelque chose de nouveau, ou je veux me donner au Seigneur pour la première fois. Donc si vous avez à cœur de répondre, vous pouvez vous lever pendant que je prie. On ne va pas faire qu'un, on ne va pas vous piéger, on ne va pas vous demander de venir après ici, mais que le Seigneur vous permette de répandre dans vos cœurs et aussi manifester par un geste en se levant, seulement si vous décidez que quelque chose de nouveau doit se passer dans votre vie. Seigneur, nous voulons te louer pour cette parole de Dieu, pour le choix de Saül au début. Et Seigneur, tu sais que plusieurs personnes ici dans cette salle voudraient, Seigneur, se donner à toi ou renouveler cet engagement avec toi. Et Seigneur, tu veux bénir ces personnes. Tu veux, Seigneur, leur donner ta grâce. Tu veux qu'elles puissent marcher avec toi en craignant ton nom. Tu veux écrire dans ton livre cet épisode pour qu'il soit jamais oublié. Et Seigneur, nous voulons bénir ton nom éternel. Seigneur, merci pour l'Esprit de Dieu. Merci pour la grâce. Amen.